CQFD est en danger et nous appelle à l'aide. CQFD pour ce qu'il faut dire, détruire, développer, etc. etc. CQFD, le journal papier symbolisé par un chien rouge, publié à Marseille, depuis 2003, avril 2003 quand même, eh bien CQFD connaît quelques difficultés financières. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas surprenant. On parle là d'un canard totalement indépendant, un vrai média libre qui refuse toute subvention. Mais même si ce n'est pas surprenant, on n'a évidemment pas du tout envie de voir disparaître ce formidable outil, hein, ce formidable mensuel qui fait entendre une voix singulière dans le paysage de la presse papier. Et donc c'est avec plaisir et avec conviction qu'on relaie aujourd'hui leur appel au secours. On va en parler plus longuement de ce journal et de ses difficultés, mais aussi de ses envies, hein, de ses projets, avec un membre de la première heure de l'équipe CQFD, Christophe, qu'on a eu au téléphone, c'était lundi dernier. Et on va commencer par le commencement, à savoir peut-être qu'il nous présente lui-même l'aventure CQFD.
Alors CQFD, c'est un journal papier et un site internet, et c'est surtout un journal papier qui existe depuis 17 ans, qui a été créé par des militants antimilitaristes qui vivaient à Marseille à l'époque. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils étaient marseillais, et qui avait failli, avec les éditions Agone, s'associer pour faire ce journal. Voilà. Est arrivé Olivier Siran, qui avait été lourdé de Charlie Hebdo, et ils ont monté ce journal. Et puis, depuis, il y a des équipes différentes qui se sont succédées. Moi, je suis plus ou moins dans l'équipe depuis presque le début. Il y a encore des anciens, et puis il y a des gens nouveaux qui sont arrivés. Et on fait un mensuel, qui est aujourd'hui en kiosque sur tout le territoire, qui est vendu 4 euros en ce moment. C'est un journal un peu épais, et c'est un peu le prix de revient qu'il faut pour qu'on arrive à payer le papier aujourd'hui. Et c'est alors moi je présente souvent ça comme un journal anarchiste généraliste, mais que les auditeurs ne se trompent pas, ce n'est pas un journal anarchiste comme on entendrait en lisant Le Monde Libertaire. On va dire que ça pourrait être quelque chose qui ressemblait à Charlie Hebdo il y a très longtemps, qui est en même temps peut-être un petit peu près du canard, qui ressemble à beaucoup de choses et qui ressemble qu'à lui-même surtout. Voilà. Et on a une version internet où on a des articles qui toutes les semaines paraissent gratuitement.
Ouais, sur voilà. CQFD-le-du-haut, journal.org, CQFD-journal.org. Les articles paraissent semaine après semaine, c'est ça, il n'y a pas tout de suite les articles de la version papier, mais ils arrivent petit à petit au compte-gouttes sur le site web.
Dès le vendredi, on a un article qui a été choisi, on en met 4 en ligne du numéro en cours, ce qui est beaucoup hein, en termes d'offres gratuites, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on compte énormément sur nos abonnés et nos lecteurs, quand même, les gens qui achètent le journal la première semaine et qui aiment lire en papier, parce que c'est pas toujours les mêmes, même si on est de plus en plus à lire facilement sur internet, parce que c'est plus aisé aujourd'hui que ça ne l'était avant.
Il faut parler maintenant de CQFD en lui-même, le journal papier, hein, essentiellement, le site web c'est secondaire, c'est un peu un accessoire on va dire. Donc tu l'as dit, c'est assez dense, ça fait 24 pages. Alors c'est pas mal que tu sois un peu de l'aventure depuis le début, parce qu'on va pouvoir aussi parler de l'évolution de ce titre. Tu disais ça ressemblait peut-être un peu à Charlie Hebdo. Alors c'est vrai que ceux qui ont lu CQFD au début, alors ça fait déjà 14 ans, hein, le canard est né en avril 2003, peut-être se souvenaient effectivement d'un journal qui faisait la part belle aux dessins de presse, caricatures, hein, etc., avec des articles plutôt courts, voilà, quelque chose qui effectivement, pas sur le fond mais sur la forme, pouvait rappeler Charlie Hebdo, hein, Charlie Hebdo un peu plus intéressant, un peu plus politiquement engagé, libertaire, enfin voilà, on peut le dire comme ça. Mais ça c'était avant, le journal a quand même subi des sacrées évolutions, avec de plus en plus d'articles de fond, notamment à travers un dossier thématique maintenant, chaque mois, ça fait quelques années que ça existe, avec des thèmes très différents, hein. Là ce mois-ci c'est Macron sternant, hein, on a compris, un dossier sur notre président jupitérien. Le mois dernier, ça revenait sur la révolution d'octobre 1917 en Russie, centenaire oblige, mais il y a également eu des choses sur l'art, sur les bistrots, sur le syndicalisme, sur le climat, sur les dom-toms, sur les crimes policiers, etc., etc. Voilà, donc des choses un peu de fond, et puis un journal avec aussi des photos maintenant, des dessins plus sérieux, enfin, la forme aussi a changé.
Exact, mais je vois que tu lis bien le journal, effectivement, ça fait plaisir.
Je lis le journal, tout à fait.
Non, mais en plus, non seulement il fait 24 pages, mais en fait, il en fait plus, parce que ça, c'est les 24 pages officielles. À l'intérieur, il y a 8 pages de dossiers. Donc, en réalité, on est quasiment à 32. Et on a 32 depuis 2 ans. La volonté du dossier, elle avait été initiée par Mathieu Léonard. un des membres de la rédaction qui nous disait bon, on est toujours pris à la gorge tous les mois, il faudrait qu'on ait un peu de prévision. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans les dossiers. Et c'est un truc qui est difficile à suivre parce que autant ça nous permet de resserrer sur des sujets, de travailler des sujets qu'on ne travaillerait pas aussi. Mais là, on est repris encore par la mensualité, c'est-à-dire la périodicité qui nous oblige à travailler de plus en plus vite. Et comme on est un collectif où on n'est pas salarié, imaginez avec le boulot que ça représente. Donc là, on a besoin non seulement de payer un secrétaire de rédaction et une maquettiste qui puisse pendant une semaine ou deux être vraiment présent là-dessus, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir des bénévoles dessus, les gens ne peuvent plus. Et avant, on avait les contrats aidés, là, on les a perdus. Donc c'est pour remplacer ces postes.
Vous aussi.
Si on obtient plus de fonds, ça sera aussi pour se permettre de faire des reportages plus longs et plus fouillés et d'avoir un peu de temps devant nous. Là, c'est vrai que nous, on tire un peu la langue là-dessus. Si on dit que le chien rouge a la dalle, on tire aussi la langue par rapport à ça. C'est que tous les mois, quand tu as un boulot à côté, que tu n'es pas forcément chômeur, parce que ce côté chômeur de 2003, là, il a disparu. On n'est plus tellement chômeur, la plupart. Il faut qu'on bosse à côté souvent pour arriver à tenir dans le journal. Tu as raison de souligner ça. Les articles sont devenus plus longs, plus fouillés. On s'adresse peut-être à des gens qui lisent plus longtemps. On avait des sujets de prédilection comme les apatistes. On est peut-être un des derniers journaux à Paris 2. De temps en temps, une fois par an, peut-être le Monde Diplo les évoque. On a effectivement eu un sujet qui est revenu pendant 2-3 ans, que c'était effectivement le Kurdistan et l'aspect du municipalisme libertaire qui se profile dans les luttes des Kurdes. Il y a effectivement la culture populaire, la question de la gentrification. Et puis, là, t'as bien pointé une question qui nous traverse aujourd'hui encore et par laquelle on n'est pas d'accord dans la rédaction, c'est effectivement la question du dessin de presse. C'est-à-dire que le journal, pour les gens qui le disent depuis des années, il est passé de plus en plus un journal vers des illustrateurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'illustrateurs qui ont beaucoup de talent, vraiment énormément de talent. Je sais pas si dans le numéro en cours, il y a un dessin de Elsa Zimuth qui illustre le dossier, qui est absolument somptueux, mais ce n'est pas du dessin de presse, c'est pas du dessin humoristique.
Oui, le dossier dont tu parles, c'est le dossier sur Macron, justement.
Hein. Voilà, ça s'appelle Macron sternant, et on a un super dessin des Azimuts. Souvent, on ne rend pas hommage aux illustrateurs, ni aux dessinateurs, hein. Enfin, en général dans la presse. Moi, j'aime bien en parler parce qu'ils font un boulot remarquable, et ils font un boulot remarquable que nous ne payons pas. Car nous ne sommes pas payés, mais eux non plus.
Il y a quand même quelques dessins de presse encore. Hein. Il y a toujours le Fred Touron qui illustre sa phrase du mois. Et puis il y a toujours quelques dessinateurs qu'on retrouve. Mais c'est vrai que c'est pas, ils se payent plus la part du lion comme ça pouvait l'être il y a quelques années dans les colonnes de CQFD. On va parler un petit peu de l'équipe. Là, tu as commencé à parler des gens qui font des illustrateurs et des gens qui font le journal. Tu as dit donc il y a deux salariés, on l'a compris, à temps partiel, qui sont donc la maquettiste, c'est ça, et un secrétaire en quelque sorte.
Ouais, exactement. C'est ça qu'on cherchait à financer.
Voilà.
Donc pendant 15 ans, on était sortis entre des moments de contrat aidé et puis des moments où on avait des fonds et où on payait des gens à être journalistes, à occuper toutes les fonctions. Parce que dans l'équipe, les gens sont polyvalents. Ils n'occupent pas tous les postes, mais quelqu'un qui est journaliste risque de se retrouver à passer le balai, comme aller à l'imprimerie, comme peut-être vendre le journal à la criée dans la rue. Voilà. Il n'y a pas un poste défini, et quand on dit secrétaire de rédaction, le secrétaire de rédaction, c'est peut-être celui qui travaille le plus avec la maquettiste actuellement. Donc, l'objectif, c'est avec ses 1000 abonnés, c'est de financer ces postes-là pour qu'au moins une grosse semaine, ils puissent être rémunérés modestement en plus sur ce travail.
Alors, ça, c'était les emplois aidés jusqu'à présent, ces deux postes?
Alors, c'était les emplois aidés, pas forcément sur ces postes-là, parce qu'en fait, tout le monde dans notre équipe, on jongle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le droit au chômage mais qui s'investit dans le journal, eh ben, il continue après son chômage à rester dans le journal et à travailler en fonction de son envie, etc. Donc ça a été le cas un peu comme ça. Tout le monde a un peu jonglé entre ces contrats-là et d'autres contrats qui se finissaient, des droits au chômage, voilà. Notre ancien secrétaire de rédaction vient de retrouver un travail et il profitait de son temps de chômage pour travailler dans la rédaction auparavant. Donc il l'a fait pendant un an ou deux, gloire à lui. Gloire à Momobruck qui, pendant 2 ans, a assuré ce poste-là de coordination, qui est un travail qui n'occupe pas un plein temps, mais enfin un bon mi-temps.
Comment ça se passe le travail en interne? Vous avez un chef, un rédacteur en chef, comme tous les vrais journaux?
Alors, je sais que tu connais la réponse, sinon tu ne poserais pas la question. Non, il n'y a pas de rédacteur en chef, il y a un vrai travail collectif. Je ne sais pas si ça se ressent quand on lit le journal, mais en tout cas quand on fait un... Quand on fait ce qu'on appelle l'édito, c'est un édito collectif qui retravaillait souvent les derniers jours par toute l'équipe. On est chacun devant notre ordinateur, alors ça peut être chez soi ou à la rédaction, et on va chacun mettre un petit peu de soi ou des rectifications à une idée de départ. Là, il y a une réunion par exemple, de préparation du nouveau numéro, elle se fait comme ça en collectif, voilà, du mieux qu'on peut. Je ne dis pas qu'on a mis des règles très très claires qui permettent de profiter d'une démocratie directe très efficace, mais on essaie de travailler à peu près comme ça, horizontalement. Donc, effectivement, il n'y a pas de rédacteur en chef. Je crois qu'il n'a jamais trop existé. Le directeur de publication, non plus.
Même si là, il y a un titre, bon, c'est une obligation légale, quoi. Hein. Il y a quand même un directeur de publication enregistré.
Ouais. Voilà. Effectivement, depuis 15 ans, je peux attester et témoigner que il n'y a pas eu réellement de prise de pouvoir et des influences décisives d'anciens, mais qu'en même temps, il y a une place qui a été faite à des équipes plus jeunes qui sont arrivées. Après, on a quand même du mal à intégrer des femmes dans l'équipe. Il y en a eu à une époque. Il y a des gens qui sont... Il y a des collaboratrices en permanence qui sont des journalistes, qui sont des maquettistes, qui sont des relectrices, etc., qui ont des postes, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe très mixte. Ça, c'est un regret qu'on a encore aujourd'hui. On n'arrive pas à modifier ça, alors que régulièrement, pas fréquemment, mais il peut y avoir des femmes qui viennent dans l'équipe en disant voilà, moi je veux participer à l'équipe et qui ne s'y retrouvent pas forcément dans notre façon de travailler. Donc, on a encore des choses à travailler à l'intérieur du journal.
Vous aviez également une chronique féministe et celle-là, elle a disparu effectivement depuis quelques temps.
Elle vient de revenir, elle est dans le dernier.
Ah, je ne l'ai pas assez bien lu le dernier.
Non, mais c'est normal. En même temps, une rubrique qui revient juste ce mois-ci. La rédactrice de cette rubrique a retrouvé du temps, donc elle nous a réécrit. C'est difficile aussi de prendre sa place. Il y a un mois ou deux, on avait fait une grande interview de Mélusine, qui est une blogueuse féministe, et qui nous avait aussi, à qui on a proposé de faire une rubrique sur ce sujet-là. Et ça prend du temps de faire ça et de se dire que tous les mois, on va assurer cette rubrique. Donc là, on a refait en septembre un grand plénum de tous les CQFDiens de la planète pour effectivement se dire que là, une rubrique féministe allait revenir de plein droit, comme il y aurait aussi une rubrique sur les bons plans, on va dire, un petit peu comme dans le journal Rafale, qu'on allait changer un peu des rubriques, parce qu'il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver. Pour ne rien vous cacher, on a réussi à absorber les anciens rédacteurs de Article 11, journal qui s'est éteint à Paris.
Ouais, qui s'est éteint il y a 3 ans déjà, je crois.
Voilà, et qui nous ont rejoints déjà depuis un an. Donc je signale leur arrivée en force dans notre journal. Et donc c'est une belle énergie qui est arrivée au journal récemment. Voilà.
Bravo, un beau mercato.
Exactement. Et on les a achetés pas très cher. Mais en ce moment, on a envie un peu de tout changer, mais en même temps, on ne veut pas tout changer. Donc c'est en discussion, on a même envie de supprimer l'agenda. Donc, vous voyez.
Ah oui, grand chamboulement.
Peut-être. Non mais voilà, c'est aussi le fait qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, qui ont envie d'amener d'autres choses, et il faut quand même qu'on prenne de la place. Donc cette place-là, on l'a pas dans les marges. Hein. Il faut que des choses disparaissent pour que d'autres arrivent.
En même temps, tu parlais de cette envie que vous avez de changer. On l'a dit, des changements depuis la création, il y en a déjà eu pas mal. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de continuer. C'est qu'il y a toujours des choses nouvelles à amener. Il y a toujours des expérimentations nouvelles à mener. Toi qui es là depuis le début, j'imagine que tu serais pas resté s'il n'y avait pas eu un petit peu cette remise en question et ce renouvellement régulier, quoi, dans le journal.
Oui, et c'est souvent les maquettistes qui amènent ça. Là, on vient de changer encore de maquettiste. On laisse beaucoup de liberté aux maquettistes. Des fois, on n'a pas le choix, mais on a des maquettistes qui nous changent le journal. Pendant 2 ans, on a eu Ferdinand Casalis, qui venait de la revue Z et de la revue Jeff Clack. Et il nous a apporté plein de choses dans le journal, en innovant, en modifiant. Alors ça, c'est un peu du technique, mais c'est vrai que quand on change les blocs et qu'on les modifie, qu'on essaie de gagner de la place, qu'on change les polices de caractère, tout ça, ça change effectivement un journal. Et le lecteur, qui n'est pas forcément passionné par ça, s'en rend compte un peu insidieusement. en disant, tiens, il y a quelque chose de nouveau. On a beaucoup de courriers comme ça, en disant, ah, j'aime bien votre journal, il a changé, voilà. Et c'est pour ça que, notamment, je te disais tout à l'heure que les illustrateurs ont pris beaucoup de place ces deux dernières années, parce que Ferdinand nous a amené énormément d'illustrateurs, comme Baptiste Alchouroun, comme Les Azimuts, comme, là, j'ai Juliette Barbanègre, là, sur un article de Alessie Delumbria. C'est des dessins d'art, c'est magnifique. Oui, j'ai l'impression qu'on fait toujours le même journal avec le même souci de relecture, c'est-à-dire qu'un article qui est envoyé, qui pourrait être envoyé par toi ou par quelqu'un qui aurait vécu une lutte à Bure ou dans la vallée de la Roya, qui n'est pas forcément journaliste, peut nous envoyer un article. On va juger de l'intérêt, on va le retravailler, il va y avoir un relecteur, deux relecteurs, il va être renvoyé à l'auteur, et ça, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis le début. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas énormément de changements.
Donc, faut pas hésiter à envoyer, du coup, ces articles, ces comptes rendus de lutte ou autres reportages à CQFD.
Ouais, il faut pas hésiter. Et du coup, je signale aux auditeurs et à toi-même que comme notre dossier du prochain numéro, pour lequel on aurait dû prendre déjà 3 mois d'avance, sera sur les radios libres, eh bien, n'hésitez pas. Alors, ce n'est pas... Ça ne va pas être un inventaire des radios libres, mais ça va être effectivement d'essayer de raconter ce qui en Europe a été l'aventure des radios libres. Et voilà. Donc, avis aux amateurs qui ont vécu une expérience de radio pirate, de radio libre, de radio associative. Voilà. Et plus ça sera court, mieux ça sera évidemment. C'est ça la difficulté, c'est d'écrire court en général.
Alors ça, c'est pour le mois de décembre. Tiens, tu parles de radio libre. Comment vous vous situez, vous, à CQFD par rapport à ces autres médias libres? Quelles sont les relations un peu au quotidien, pas seulement au moment où il y a des appels à l'aide?
Ben, je dois dire qu'en fait, c'est plutôt c'est l'histoire personnelle de chaque membre de la rédaction avec des médias. Autant, on a certains qui sont proches de Basta, par exemple de Basta Mag, qui a relayé notre appel. Certains comme moi sont assez proches des médias locaux. Moi, je lis énormément la presse indépendante et je fréquente beaucoup les gens du Ravi dans la région et d'autres rédactions. Et certains d'entre nous ont écrit ou écrivent encore régulièrement dans d'autres journaux. On en a certains qui écrivent dans le monde diplomatique, qui font des notes ici, qui peuvent faire des notes dans le Canard, etc. Donc, il y a des relations comme ça amicales. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la plateforme des médias libres qui se réunit notamment en Corrèze, on n'y a jamais participé. On est un peu à la ramasse là-dessus. C'est-à-dire que à CQFD, il n'y a jamais une volonté collective d'être trop là-dedans. Alors après, régionalement, on arrive à peu près à fonctionner avec les médias du coin. Mais ça va pas plus loin.
Alors on va en venir maintenant à ces difficultés qui font qu'aujourd'hui vous dites au secours, venez sauver le chien rouge. Vous titrez là en une de votre numéro 159 quand même, hein, le numéro de novembre. Le chien rouge à la dalle, il a besoin de toi pour mordre et tenir. Avec d'ailleurs, tiens, puisque tu disais qu'on les citait pas assez, avec un beau dessin de Krog, hein, avec le chien rouge, le fameux bulldog rouge qui symbolise CQFD, tenant entre ses crocs, hein, une sorte de pantin qui ressemble étrangement à un président jupitérien qu'on ne citera pas, mais à qui le dossier est consacré. Alors, qu'est-ce que c'est ces difficultés? Pourquoi cet appel à l'aide arrive maintenant? On imagine que c'est jamais tellement la folie au niveau des caisses du côté de CQFD.
Non, mais on tenait sur un petit trésor de guerre, et effectivement, la fin des contrats aidés, le plus grand plan social édicté par le gouvernement vient de tomber, fait que les deux contrats aidés qui permettaient d'assurer deux postes, celui de secrétaire d'action ou d'un journaliste ou d'une maquettiste, ne peuvent pas être recréés. Donc, effectivement, il faut que nous trouvions des abonnements. Nous, après, on s'en sortait par rapport aux ventes en kiosque. On dit dans l'édito que ça descend, que ça se maintient. D'un numéro à l'autre, on était à peu près dans les mêmes chiffres, même si depuis 15 ans, ça a énormément baissé.
C'est quoi les mêmes chiffres actuellement? C'est autour de 5 000, 6 000 exemplaires vendus?
On tire à 10 000 et entre les abonnés et les ventes, on est à 5 000 effectivement. 5 000 vendus. Voilà. Donc, on tirait il y a quand même 15 ans. 15 ans, ça fait loin. Hein. Avant le numérique, presque, et la presse sur Internet, on était à 40 000 pour être à peu près dans tous les kiosques. Et nous, on s'est ajusté aussi au nombre de kiosques. Les kiosques à Marseille, on est passé de 80 à 18 ouverts aujourd'hui. Ça, je parle juste des kiosques. Hein. Les maisons de la presse, il n'y en a presque plus non plus. Donc ça, sur les grandes agglomérations, on a encore des kiosques et des maisons de la presse. Voilà. Donc ce qui fait qu'à Paris, on ne va pas forcément trouver facilement CQFD. On a du mal dans les relais les relais, ce sont les points de vente dans les gares, à être présent, parce que, et ben, on subit comme à peu près toute la presse, sauf le monde diplo. Le monde diplo, comme tu l'as vu en une, ce mois-ci, annonce des ventes records et annonce qu'en gros, ils n'ont plus besoin qu'on les aide vraiment financièrement. Quoi.
Oui, c'est un peu une exception.
Mais ça se voit dans les chiffres de l'OJD, c'est-à-dire sur le site des ventes. Depuis des années, il n'y a que le diplo et exceptionnellement quelques journaux comme Cosette ou des journaux qui viennent de sortir, qui profitent d'une embellie. Mais la plupart des autres journaux essayent de se sauver comme ils peuvent. Voilà. Alors après, la plupart des journaux sont financés par des groupes qui gagnent et qui perdent de l'argent, c'est pas forcément important. Mais dans le cas d'un journal indépendant qui vit sans subvention, sans publicité, sans aide de la presse, là on fait peut-être exception parce que on est un des journaux qui demandons absolument rien. Voilà. C'est-à-dire que si tu prends l'Utopique, le Ravi, un certain nombre de journaux comme ça, ils demandent et ils obtiennent les aides de la presse, qui peuvent représenter des sommes de 8 000 à 30 000 euros par an, ce qui fait tourner un petit peu une équipe. Ça, on les a pas. Et on a zéro publicité et on n'a quasiment pas de recettes sur le net. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque numéro, chaque abonné, chaque lecteur nous rapporte un petit peu pour arriver à payer notre local, à payer le papier et les 2-3 emplois qu'on arrive à maintenir difficilement.
Oui, parce que là, du coup, votre appel à l'aide, c'est d'abord un appel à abonnement, en fait. Ce que vous demandez là, à celles et ceux qui veulent soutenir CQFD et qui veulent que l'aventure continue, c'est surtout de s'abonner et de faire abonner.
Oui, parce qu'en fait, l'abonnement, bah, c'est assez simple. Un abonnement, c'est 12 mois. Alors, on peut s'abonner 2 ans si on veut. Mais un abonnement d'un an, eh ben, c'est pour un journal l'assurance d'une recette comme ça sur un an et d'avoir une vision sur un an. Donc, voilà. Et nous, c'est vrai qu'on fait comme ce journal pour être lu. Et pas simplement être lu sur Internet, parce que sinon on aurait pu simplement cesser le papier. C'est parce qu'on a, un désir profond que le journal soit encore en papier, que l'illustration elle soit là posée sur du papier, parce que ça va encore dire quelque chose pour nous. On doit appartenir à une génération où le numérique n'a pas tout emporté encore. Voilà. Même si, évidemment, on lit sur Internet énormément de choses, il y a toujours un grand plaisir au papier. Et donc on n'a pas trop envie de lâcher le morceau là-dessus.
Alors c'est un appel vraiment au secours, parce que là si très vite un certain nombre d'abonnements n'arrivent pas, s'il n'y a pas de l'entrée d'argent liquide, hein, clairement, vous disiez que vous alliez devoir lâcher votre local, tu disais que vous ne pourriez pas embaucher ce secrétaire de rédaction entre guillemets et la maquettiste, voilà, donc ce serait la disparition à très brève échéance du canard, hein. Enfin du chien rouge en l'occurrence, du journal au chien rouge.
Alors on n'essaie pas de vous faire peur parce que ça fait des années que de toute façon on est dans la précarité. Mais c'est pas de dire aux lecteurs, enfin, on vend pas un journal parce que des lecteurs, on leur dit qu'on va mourir. Enfin, on peut très bien mourir, il y a d'autres journaux qui sont morts. Hein. Mais c'est plus l'intérêt, c'est de faire découvrir un journal qui effectivement parle de sujets qui sont pas forcément traités globalement et pas traités de cette façon. Et effectivement, quand on avait fait, tu l'as rappelé tout à l'heure, un dossier sur les crimes policiers, le dossier la police tue, on s'est rendu compte sur ce dossier-là, puisqu'on avait été attaqué par la CFDT police, bon, ils n'ont pas poursuivi leur plainte, que de faire une enquête vraiment avec les victimes des violences policières et d'aller faire un petit peu le tour de ces questions-là et d'en rendre compte de cette manière, c'est-à-dire par des interviews poussées en racontant des récits de vie, en racontant des anecdotes, en n'allant pas forcément voir les représentants, mais en allant voir les gens qui sont vraiment concernés, c'est un dossier qui a énormément plu, qui a plu au-delà même de toutes les familles des victimes. Parce qu'on avait traité ça, déjà parce que je pense qu'on adhère aussi à cette question-là et qu'on est très proche de ces gens-là, et qu'on a su à peu près rendre compte de ce sujet-là. Et je me rappelle la famille de Wissam El Mani et de Clermont-Ferrand qui était venue à Marseille, qu'on avait rencontré, et qui nous a demandé comment ça se fait que le journal n'était pas interdit, avec la une qui avait été proposée. Et là, voilà, on vit une époque où on arrive à faire taire un journal, c'est ne pas lui interdire sa une, quasiment.
Alors ces difficultés, c'est pas les premières, tu l'as dit. Moi je me rappelle qu'il y a presque 10 ans, je crois que c'était en 2008, il y avait déjà eu une grande campagne d'abonnement pour sauver CQFD. Est-ce que ça veut dire que quand on est un média libre, un média indépendant, il y a une espèce de fatalité qui fait qu'on est forcément réduit à vivoter, à galérer et puis à mendier comme ça régulièrement?
Oui, oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que si on se rappelle de comment est née Libération, par exemple, en 73, pas la Libération que vous avez entre les enfants.
Qui d'ailleurs est largement déficitaire et sauvé par les grands groupes dont tu parlais tout à l'heure, hein, régulièrement.
Il y a deux hypothèses. Comme disait Serge Halimi du Monde Diplomatique, on se demande si dans la presse, les industriels n'achètent pas des groupes de presse uniquement, pas simplement pour les avoir à leur botte, c'est un peu le cas quand même, prenons le Figaro, mais si c'est pas aussi pour réduire les recettes dans un groupe industriel. Voilà, parce que de toute façon, on sait que c'est à perte. Libération, quand il naît en 73, suite à l'agence France Libération, c'est les militants qui font un journal, et ce journal va disparaître très rapidement au bout d'un an. Il va être remonté par quelques philosophes, dont Sartre et compagnie, avant d'être repris par des gens comme Serge Lui, mais c'est une entreprise qui va être déficitaire sans arrêt, et parce qu'elle est militante aussi, parce qu'elle a des procès, et c'est pas ses lecteurs qui lui suffisent à l'époque, même si il y a une aura sur Libération. Après, vous savez le nombre de plans sociaux qu'il y a eu à Libération après. Mais même à cette époque-là, ces journaux-là ont toujours eu du mal. Et dans la presse alternative aujourd'hui, il y en a une partie qui vit quand même parce que il y a à un moment donné le fils d'un héritier, il y a une donation, il y a quelque chose qui arrive comme ça, une somme importante qui permet de tenir le journal. En gros, tous ces journaux-là, même jusqu'à Politis, ont vraiment du mal à exister par eux-mêmes. Mais je pense que c'est un petit peu, à part les années 30 en France, la grande époque de l'illustration où la publicité prend un grand rôle et où en fait le journal papier n'est qu'un support à publicité et à réclame, la presse a toujours été et restera quelque chose de déficitaire. C'est de la formation, nous ne délivrons pas des conseils aux banquiers. Les premières gazettes au 18e sont des gazettes pour financiers. Ça tient à peu près la route puisque c'est de la formation financière. Quand on fait de la dénonciation, on a un petit peu plus de mal. Et nous, effectivement, tant qu'on n'a pas, on risque peu d'avoir un don exceptionnel de 30 000 ou 40 000 euros des gens qui ont des forts patrimoines ou qui payaient l'ISF avant que Macron arrive. Donc, il y a peu de chances qu'ils nous défendent, parce qu'effectivement, nous ne défendons pas la propriété privée, ni même l'état de cette société. Donc, il a juste ouvert le journal pour se rendre compte qu'on a un petit peu tendance à contester tout ce qui peut se produire dans cette société, tout ce qui se passe dans ce monde-là. On n'attire pas l'œil des banquiers en général.
On n'attire pas l'œil des banquiers en général, nous disait donc Christophe dans cette interview réalisée lundi après-midi. Certes non, et tant mieux d'ailleurs. Alors si vous voulez acheter ces QFD, c'est 4 euros chaque mois. Vous pouvez le trouver notamment à la librairie Terra Nova. Christophe parlait des kiosquiers. Eh bien, il y a un kiosque où vous le trouvez bien mis en valeur d'ailleurs. C'est le kiosque situé sur la place Esquirol. Mais enfin là, l'idée, c'est pas d'aller que vous alliez juste acheter le CQFD. Il s'agit d'abonner et de faire abonner. L'abonnement pour un an, 11 numéros, c'est compris entre 29 euros si vous êtes désargenté et 50 euros si vous en avez les moyens et que vous souhaitez soutenir le journal Au Chien Rouge. On rappelle, hein, l'objectif, c'est 1000 abonnés. Alors, tiens, on lui a demandé, on en a profité, hein, évidemment, de l'avoir Christophe au bout du fil pour lui demander un petit peu de nous présenter le numéro en cours, le numéro 159 du mois de novembre, un peu à la manière de ce qu'il faisait déjà à l'époque dans l'émission Le Front du Lundi.
Je vais porter l'attention de vos auditeurs comme sur quelques articles, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a quand même l'entretien de Christine Rebailly, qui était bergère dans le Tarn, et qui a passé quelques années en prison, et dont la pièce Pissée dans l'herbe est en train de parcourir la province française. Donc ça, c'est un bel entretien, et c'est vrai que ces QFD s'est toujours fait l'écho des luttes en prison et des luttes hors des prisons. C'est peut-être un des rares journaux qui fait ça. Il y a évidemment notre dossier sur Macron avec...
Alors, je précise, l'entretien avec Christine Rebailly, ça s'intitule « La prison, une entreprise de destruction sociale ».
Voilà. Il y a notre dossier sur les feignants qui est à l'intérieur, avec un article, effectivement, où je me suis rendu personnellement au Salon des entrepreneurs pour poser la question aux entrepreneurs sur qui étaient les feignants. Il y a aussi un micro-trottoir, il y a quelques articles sur les insultes, puisqu'on a produit un magnifique poster à la demande de quelques lecteurs qui regrettaient depuis quelques années qu'on n'ait pas un beau poster. Et là, on a un beau poster avec un « Monsieur le Président, vous avez fait une lettre ». Et donc, c'est un catalogue d'insultes. Alors, on avait déjà fait un catalogue d'insultes il y a 2 ans pendant la loi travail à propos des socialistes. Là, on a répliqué. Et puis, il y a un bel article aussi sur l'axe Berlin-Marseille avec les chômeurs allemands, qui est fait par Olivier Siran. Donc, Olivier Siran, qui a publié dans mon diplôme au mois de septembre un article sur ArtsCat.
Oui, sur la réforme de l'assurance chômage, hein, qui préfigure celle à laquelle nous allons probablement être mangés très bientôt.
Voilà. Et alors, du coup, on avait ces chômeurs allemands qui étaient invités à l'apéro de CQFD samedi soir à Marseille, avec Olivier Siran pour la traduction. Il nous a fait un petit article un peu plus court pour nos lecteurs qui sont fatigués des grands articles du Monde Diplo. On a un bel article aussi sur le Portugal de Michael Correa, qui est notre spécialiste Portugal.
Oui, sur le Portugal, on peut préciser, hein, c'est le Portugal à feu et à cran. Ça revient sur les très gros incendies qu'a subi le Portugal, notamment cet été, mais surtout sur des pouvoirs publics à l'abandon et incapables là, de faire face à ce genre de catastrophe.
Voilà. Et Emilien Bernard, qui était en voyage à Vesgrad, nous a ramené un bel article de Bosnie-Herzégovine où on se rend compte qu'il y a des délires chez Emir Kusturica, le bien connu. Donc c'est un reportage qui est intéressant aussi. Ça, on ne peut se payer ce genre de reportage que parce que Emilien fait partie de la rédaction, qui a la gentillesse de nous ramener des reportages d'aussi loin. Et puis il y a un entretien passionnant pour ceux qui connaissent Alessio Dell'Umbria, un entretien qu'a fait Bruno Le Nantec sur son nouveau livre, parce qu'Alessio Dell'Umbria est plus connu pour son Histoire populaire de Marseille aux éditions Allon, qui avait été un gros succès. Et là, il a sorti un livre qui s'appelle Tarantella, sur les pratiques musicales et magiques dans Naples, en 1860. Voilà. Et il y a un grand entretien avec j'allais dire intellectuel, mais je pense qu'il n'aimerait pas le terme, Marseillais mondial, qui est Alessio Dell'Umbria.
Ce non-intellectuel voilà. Marseillais mondial. Ça lui va très bien.
Il y a aussi un petit article où on revient sur l'affaire Coco Pelli qui avait fait grand bruit sur notre site internet. Ça s'appelle Les graines de la discorde, puisqu'on avait eu l'idée de publier une interview, un article en tout cas, avec les éditions du Bout de la Ville. Voilà.
Oui, qu'on a déjà reçu dans le magazine. Voilà, avis aux auditrices, auditeurs, ça peut aller se réécouter également. Il y a encore bien d'autres choses à lire dans les CQFD de ce mois-ci, et on parle que de celui de ce mois-ci. Hein. Il y a aussi une page entière sur les séquelles militaires françaises en Algérie, en l'occurrence les mines antipersonnelles. Il y a aussi un article sur la modernisation de la distribution du courrier à la poste, c'est-à-dire en fait la dématérialisation hein, du courrier, les mails, etc. Bon voilà, et puis tout un tas de ça, on parle là des grands articles. Mais il y a après tout un tas de petits articles, plein de brefs, plein de chroniques, comme celle de Sébastien Fontenelle, comme celle de Noël Godin, etc., etc., etc. Et ça, c'est pour un seul numéro de CQFD. Autant dire que quand même, à chaque fois, il y a de quoi lire et il y a des matières à penser dans chaque numéro. Ça, c'est pour participer un peu à la promo, mettre ma petite touche.
Non mais, effectivement, même quand moi, je découvre le produit final... sorti de presse, je trouve qu'il y a beaucoup, presque trop à lire dans le journal pour un mois. Voilà, non mais c'est vrai que c'est assez dense, hein, comme.
Ouais, c'est assez dense, en effet, nous disait Christophe, donc membre de la première heure de l'équipe de CQFD. CQFD qu'il faut sauver. Bon, bah, vous l'avez compris, c'était un petit moment de soutien, de promo, hein, on peut le dire, pour le journal Au Chien Rouge, à qui on souhaite une longue vie encore. On espère pouvoir le retrouver en version papier encore de longues années dans nos kiosques, dans nos librairies. Alors, n'hésitez pas à foncer, à aller acheter le dernier numéro. Et en dernière page, vous trouverez le bulletin d'abonnement. Il y aura également sur le même petit bulletin, vous avez moyen aussi de commander quelques-uns des bouquins sortis aux éditions du Chien Rouge, les éditions qui accompagnent du coup la vie du journal CQFD. Bon, des éditions un petit peu en stand-by en ce moment, mais qui quand même ont réédité récemment l'abrégé du Capital de Karl Marx, signé Carlo Caffiero. C'est à 10 euros. Il y a également moyen de commander un t-shirt assez chouette. Voilà, tout ça pour défendre l'existence de ce média libre, d'un média libre à l'autre, de Canal Sud à CQFD. On dit notre solidarité et notre soutien. Puis je vous redonne le site web sur lequel vous pouvez également vous abonner, cqfd-journal.org.